Dossier, pages 7 à 10. Faut-il se méfier des additifs alimentaires? Des macarons verts pistaches, des bonbons qui pétillent en bouche, une crème glacée couleur schtroumpf, du jambon rose tendre, ou encore des chips goût barbecue, etc. Pour rendre certains aliments plus appétissants, les fabricants utilisent des additifs. Qu'elles soient chimiques ou naturelles, ces substances sont omniprésentes dans la plupart des produits transformés que nous consommons tous les jours et leur impact sur la santé est encore insuffisamment connu. Près de 330 additifs chimiques ou d'origine naturelle sont autorisés en France. Ils sont ajoutés en faible quantité aux aliments par les industriels pour en améliorer l'apparence, la texture, la saveur ou encore la durée de conservation. Colorants, acidifiants, stabilisateurs, édulcorants, exhausteurs de goût, agents de texture, etc. La liste des ingrédients de certains aliments transformés ressemble parfois à une formule d'apprenti chimiste. Si les additifs ne sont pas véritablement dangereux, leur accumulation et leur association peuvent toutefois finir par poser un problème de santé sur le long terme. Bien qu'ils fassent l'objet d'une évaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, beaucoup d'entre eux sont controversés en raison de risques supposés ou avérés pour la santé. Sur la base d'une revue des données scientifiques, l'association UFC Que Choisir a classé les quelques 330 additifs en quatre catégories, ceux présentant une parfaite innocuité, ceux qui étaient tolérables, ceux qui étaient peu recommandables et enfin ceux à éviter. L'association de consommateurs a tout de même rangé près d'un quart des additifs dans les deux dernières catégories. Ce qu'il faut lire sur les étiquettes. Mentionnés sur les emballages, ils figurent dans la liste des ingrédients qui sont classés par ordre décroissant en fonction de leur proportion dans la composition du produit. Étant donné qu'ils ne sont présents qu'en petite quantité, les additifs arrivent donc toujours en fin de liste. Ils y sont identifiés soit sous forme de code, la lettre E pour Europe, suivie d'un numéro à trois chiffres, soit sous leur nom. Le carbonate de calcium, par exemple, peut figurer sur un emballage sous son nom ou sous le code E170, sous lequel il est répertorié dans la classification européenne. L'avantage du code, c'est que le consommateur sait qu'il a affaire à un additif. En revanche, à moins d'être expert en biochimie alimentaire, il n'a aucun moyen de savoir s'il est d'origine naturelle ou pas. Un lien avéré entre nitrite et cancer colorectal. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSES, a confirmé le 12 juillet dernier le lien entre cancer et sel nitrité présent dans les charcuteries. Pour donner suite à ces recommandations, le gouvernement a annoncé cet été un plan d'action visant à réduire l'ajout des additifs nitrés dans les produits alimentaires. En attendant, l'agence sanitaire conseille de réduire sa consommation de charcuterie à 150 grammes par semaine. Des fonctions diverses. Le code européen avec le E devant regroupe les additifs en fonction de leur rôle, même si certains peuvent en avoir plusieurs. Ils peuvent être globalement classés en cinq grandes familles, les colorants E100 à E199, les conservateurs E200 à E299, les antioxydants E300 à E399, les agents de texture E400 à E499, les exhausteurs de goût E500 à E599. L'usage des colorants a pour but de rendre les produits plus attrayants. Les conservateurs ont pour mission de prolonger la durée de vie de la denrée en limitant la prolifération des microbes et des champignons. Les antioxydants, eux, agissent en limitant l'action de l'oxygène sur les produits, les empêchant ainsi de noircir. Concernant les agents de texture, émulsifiants, épaississants et gélifiants, et les exhausteurs de goût, les premiers modifient la consistance d'un produit, quand les seconds, comme leur nom l'indique, en relèvent le goût. Pour finir, la plupart des aliments transformés contiennent du sel ou des sucres ajoutés, parfois même où l'on ne s'attend pas du tout à en trouver. Des effets cocktails probables, mais difficiles à estimer. Si la toxicité de ces éléments est difficile à prouver, il existe un autre paramètre encore plus complexe à mesurer, c'est l'effet cocktail. Au vu du nombre d'additifs utilisés et des combinaisons possibles, il est impensable d'évaluer les interactions entre différentes substances, souligne l'Association Santé-Environnement France, ACEF. Certaines molécules, même à très faible dose et même si elles sont inoffensives, utilisées seules, peuvent pourtant devenir dangereuses lorsqu'elles sont associées à d'autres en particulier. C'est le cas par exemple de l'antioxydant E320 butylhydroxyanisole, appelé aussi BHA, qui, lorsqu'il est associé au E321, butylhydroxytoluène, BHT, augmente la toxicité pulmonaire de ce dernier. Autre difficulté pour des raisons éthiques, les études menées ne peuvent l'être que sur des animaux. C'est la raison pour laquelle la plupart des recherches sont réalisées sur des souris, mais jamais sur l'homme. La consommation de sel ne doit pas excéder 5 grammes par jour. Celle du sucre, 50 grammes par jour. Carrageenan, abondamment employé, mais pas sans danger. Baptisé aussi E407, les carrageenans entrent très souvent dans la composition d'un grand nombre de produits comme les yaourts, les flans industriels, les crèmes glacées, les plats préparés, etc., inodores, incolores, insipides et non digestibles. Ces polysaccharides naturels sont conçus à partir d'algues rouges. Ils agissent en tant qu'épaississants, gélifiants et émulsifiants. Des analyses ont montré que sous certaines conditions de température et d'acidité, une partie peut être dégradée en polysaccharides de plus petits poids moléculaires. Or, ces carrageenans dégradés, qui ont la faculté de passer plus facilement la barrière intestinale, sont soupçonnés de favoriser le cancer du côlon. Actuellement, les résultats des études menées sur ces additifs n'ayant pas été suffisamment probants, les autorités européennes ont finalement décidé de tolérer un maximum de 5% de carrageenans dégradés au sein de l'additif. Les carrageenans sont en outre accusés de déclencher ou amplifier l'inflammation dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, MICI. Selon la base de données Open Food Facts, près de 7000 produits alimentaires, y compris bio, en contiendraient. Quand des nanoparticules s'invitent dans les assiettes. Bien qu'une réglementation européenne impose depuis 2015 d'indiquer clairement sur les étiquettes la mention « nano » lorsque des nanoparticules entrent dans la composition des aliments, cette obligation n'est presque jamais respectée. Si les fabricants rechignent à signaler la présence de ces substances ultra-fines dans la liste des ingrédients, c'est, disent-ils, pour ne pas inquiéter inutilement le consommateur. Mais sont-elles vraiment anodines ? Leur taille minuscule, comprise entre 1 et 100 nanomètres, un nanomètre nm correspond à un milliardième de mètre, leur confère pourtant le pouvoir de franchir les barrières biologiques et de s'immiscer jusqu'à l'intérieur des cellules de l'organisme. Après le dioxyde de titane, désormais banni de nos assiettes, ce sont d'autres additifs controversés qui doivent être évalués par les autorités de santé, comme le dioxyde de silice, E551, un anti-agglomérant, ou le nano-argent, un conservateur apprécié pour ses propriétés antibactériennes. Arômes naturels ou artificiels? Volatiles et sensibles à la cuisson, les odeurs des aliments ont tendance à se dissiper lors de l'élaboration d'un plat. C'est la raison pour laquelle les industriels, mais aussi parfois les chefs cuisiniers, même s'ils n'aiment pas l'avouer, ajoutent des arômes tout près. Ces derniers sont classés en 6 catégories selon la législation européenne. Il y a les préparations aromatisantes, les arômes naturels, les arômes naturels identiques, qui reproduisent à l'identique une molécule naturelle, les arômes artificiels, les arômes de transformation et les arômes de fumée, utilisés pour les goûts barbecue. Les 4 derniers sont entièrement artificiels, mais tous sont fabriqués et testés en laboratoire. Pour avoir le droit d'utiliser l'appellation « naturelle », les fabricants doivent les produire exclusivement à partir d'ingrédients provenant de la nature. Comment éviter les additifs? Les longues listes d'additifs sur un même produit doivent nous faire fuir. Vous pouvez en tolérer à la rigueur 2 dans un même aliment, à condition toutefois que votre régime alimentaire ne soit pas uniquement composé de produits transformés. De manière générale, veillez à ne pas dépasser 20 à 30% d'aliments industriels. Pour vous aider à faire vos courses, il existe aussi des applications telles que Yuka, Siga et Open Food Facts, FACTS. Cette dernière, très complète, délivre des informations sur les additifs ainsi que sur le niveau de transformation des aliments. En résumé, pour éviter de consommer trop d'additifs, mieux vaut préférer les produits bruts aux produits raffinés et cuisiner soi-même plutôt que d'acheter des plats préparés. Le « fait maison » permet de contrôler ce que l'on mange et d'éduquer ses enfants au goût. Ces derniers, qui raffolent des plats transformés, sandwichs, pizzas, viennoiseries, etc., de piètre qualité nutritionnelle, mais riches en sucre, sel et additifs en tout genre, apprendront ainsi les bonnes habitudes et les conserveront à l'âge adulte. Info, pour en savoir plus, consultez le dossier « Additifs alimentaires » de quechoisir.org, onglet « Alimentation ». Signé Isabelle Coston. L'effet cocktail est complètement exclu des études de toxicité. En illustration, photographie de Corinne Méry, diététicienne et membre actif de l'association Santé Environnement France, ASEF. Invisibles dans l'assiette du consommateur, les additifs alimentaires sont pourtant omniprésents. Question du mutualiste. Pourquoi l'industrie agroalimentaire utilise-t-elle des additifs? Corinne Méry. L'enjeu commercial est considérable. La plupart de ces substances jouent seulement un rôle cosmétique. En revanche, les conservateurs, comme les sels nitrités, sont abondamment utilisés pour couvrir les risques sanitaires. Assurer une innocuité microbiologique de la viande transformée, notamment, nécessite des procédés plus complexes et donc plus onéreux. Réduire les coûts de production permet aux industriels de réaliser des marges plus importantes, et ou de proposer des produits à bas prix. Question du mutualiste. Quels sont les autres additifs dont les risques sont prouvés? Corinne Méry. Des études sur des émulsifiants ont démontré une action sur le microbiote intestinal. Dans cette famille-là, beaucoup de produits ont des effets décapants au niveau intestinal. D'autres études ont dévoilé l'effet de colorants ajoutés aux bonbons sur les syndromes de l'hyperactivité et de déficience de l'attention chez les enfants. Sur certains emballages alimentaires, figure d'ailleurs maintenant une note avertissant que le produit est susceptible de favoriser l'apparition de ces troubles-là. Question du mutualiste, pourquoi sont-ils encore autorisés? Corinne Méry. Les principes d'évaluation de toxicité datent des années 1950 et se fondent sur la mise en place d'une dose journalière admissible, DJA, pour chaque substance étudiée. En vertu d'un règlement européen de 2008, la sécurité de tous les additifs alimentaires ayant été autorisés dans l'Union européenne avant le 20 janvier 2009 fait actuellement l'objet d'une réévaluation, toujours en cours, vu l'ampleur de la tâche et réalisée sur la base de données fournies, notamment par les producteurs d'additifs eux-mêmes. Il faut savoir aussi que ces évaluations-là ont été faites uniquement produit par produit. L'effet cocktail est en effet complètement exclu des études de toxicité, encore aujourd'hui, en raison de la complexité du phénomène. Au total, 330 additifs sont autorisés. Vous imaginez ce que cela représente comme possibilité de combinaison? Propos recueillis par Isabelle Coston.